Thiago Rodriguez, comme vous le répétez régulièrement, vous travaillez au Festival d'Avignon et vous avez présenté il y a quelques jours la programmation du 77e Festival. C'est votre premier festival en tant que directeur. Le spectacle qui va ouvrir la Cordonnière du Palais des Papes, qui est le lieu le plus emblématique, le plus prestigieux, peut-être aussi le plus exposé, c'est Welfare, mise en scène par Julie Duliquet, qui est une metteur en scène qui vient pour la première fois à Avignon, qui se retrouve immédiatement dans la cour. Et Welfare, en fait, s'est inspiré d'un film documentaire de Fred Wiseman, qui date de 1975, où Wiseman a filmé en longueur des entretiens dans des bureaux d'aide sociale aux États-Unis. Est-ce que toutes ces particularités, elles ne sont pas finalement assez caractéristiques à la fois de votre travail en tant qu'artiste et aussi des orientations que vous voulez donner au festival ?
C'est vrai que c'est un projet qui m'a fasciné, mais cela ne correspond pas du tout à une envie de faire une programmation à mon image en tant qu'artiste. D'ailleurs, la programmation est de part entière imaginée par deux programmatrices, Géraldine Chaillot et Magda Bizarro, qui, dans un travail très collégial avec moi et avec Pierre Gendronneau, le nouveau directeur délégué du festival, et avec toute l'équipe, donnent forme à cette programmation de 44 spectacles à partir de propositions de Géraldine et de Magda. Avec Julie Duliquet, c'était Géraldine Chaillot qui m'a fait découvrir son travail, que j'ai suivi depuis 2019, à une époque où je ne pensais pas encore un jour même postuler à la direction du Festival d'Avignon. C'était à partir de son Fanny Alexandre que j'ai vu à la Comédie Française, que j'ai trouvé déjà une artiste qui a une façon très particulière de donner un sens profond à la recherche du travail de troupe. C'est peut-être le travail qu'elle fait avec les actrices et les acteurs qui s'est imposé comme quelque chose de vraiment fort, puissant et nécessaire à partager. Et après, avec cette capacité d'avoir une écriture de scène qui est en fait une réécriture, mais très singulière, très délicée, disons, qui est sa façon de nourrir son théâtre à partir du cinéma, mais de ne pas traduire, de ne pas transporter le cinéma au théâtre, mais de le traduire profondément, comme un poète qui traduit un autre poète, de trouver son écriture à elle, sa poésie à elle, son théâtre à elle, nourri par le cinéma. Après la dimension de Welfare, avec déjà le cinéma bouleversant, profondément humain de Frédéric Wiseman, c'est cette espèce de poème vérité beckettien, une écriture de montage, mais qui garde la puissance d'une vérité de ce qui est capté, m'a paru comme un point de départ, alors que pour la plupart d'entre nous, ce documentaire, comme toute l'œuvre de Wiseman, est un point d'arrivée. Mais pour Julie Duliquet, un point de départ absolument formidable pour son travail. Et en discutant les projets, on trouvait que déjà Julie, dans son parcours, mais aussi son théâtre, comment il évolue les dernières années, mais aussi sa capacité de travailler, de porter des troupes nombreuses dans une écriture qui mérite un espace large qui s'impose, une dimension scénographique. Toutes ces caractéristiques qu'on a identifiées dans le travail de Julie l'ont fait sauter vers la cour d'honneur et vers l'ouverture du festival. Et après, c'était avec joie qu'on a vérifié deux choses. Une, ça serait la première fois de Julie au Festival d'Avignon. Et là, pourquoi pas à la cour si on croit qu'un projet peut être présenté à la cour, même si c'est la première fois que cet artiste se présente au Festival d'Avignon. Et la deuxième chose, le fait qu'on a repéré que c'était une des rares femmes dans l'histoire du festival depuis 1947 qui ouvre le festival à la cour.
Alors en fait, la véritable ouverture du festival, elle va se faire quelques heures auparavant, à l'intérieur, et si j'ai bien compris, autour de l'opéra du Grand Avignon, avec Bintou Dembélé, qui est une chorégraphe qu'on a découverte il y a quelques années aux Hivernales de la danse. Et puis Bintou Dembélé, il y a deux ans, elle a connu une célébrité nationale, même internationale, grâce au film Les Indes Galantes, qui racontait le making-of de cet opéra de Jean-Philippe Rameau, mis en scène par Clément Cogitor, avec une chorégraphie de Bintou, qui avait convoqué des danseurs de rue, du crump, du hip-hop. Les Indes Galantes, c'est un chef-d'œuvre de la musique ancienne, revisité par une chorégraphe d'aujourd'hui, avec une partie dans l'espace public. Là aussi, ça correspond un peu, j'ai l'impression, à vos orientations programmatiques.
Oui, c'est aussi une réécriture. D'ailleurs, cette approche au répertoire et au passé, elle est très présente dans toute la programmation du festival, avec Bintou, bien sûr, de mélanger avec sa manière très particulière de rendre une troisième chose, deux deux choses qui sont une du passé, notamment la musique érudite, mais aussi les codes associés à la musique érudite, à comment habiter en lieu, en bâtiment comme une opéra, les mélanger avec les non-codes des danses urbaines qui sortent de la rue pour rentrer dans ce bâtiment énormément codifié. Alors, c'est vrai qu'il y a un geste très fort au niveau esthétique, mais il y a aussi une symbolique politique dans l'usage des bâtiments culturel qui est très présent dans ce projet Groove de Bintou Dembélé. C'est comme si elle réécrit pas seulement ce qui est montré, mais comment aussi le vivre en tant que spectatrice ou spectateur. Et dans d'autres projets, c'est vrai que la dimension répertoire, elle est présente par le geste de la réécriture. Je pense notamment à Antigone in the Amazon de Milo Rao, où Sophocle est là pour raconter l'histoire des peuples autochtones et du mouvement des sans-terres en Amazonie. Je pense bien sûr à un geste plus répertoire comme celui de Gwenaël Morin qui va vraiment mettre en scène le songe d'une nuit d'été, mais qui le met dans un contexte, dans feuilleton qu'on lui propose de faire quatre grandes œuvres du répertoire au jardin de la rue de Mons pendant les quatre prochaines années, presque comme un artiste pas associé mais qui se répète pour être en lien avec la langue invitée de chaque année. Et cette année, la langue invitée, c'est l'anglais, dont Shakespeare. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec le passé, une réécriture qui parfois n'est pas celle du répertoire théâtral ou celle d'un passé artistique, mais d'un passé historique. Je pense notamment à Émilie Monet, qui se présente pour la première fois en France, artiste québécoise issue d'un peuple autochtone, et qui raconte l'histoire d'une héroïne du 18e, héroïne autochtone, qui a exigé Marguerite Duplessis d'être traitée de citoyenne libre au lieu de personne en situation d'esclave, ce qui était son cas à l'époque, et de récupérer ce morceau d'histoire, pas pour réécrire l'histoire dans le sens qu'on la diminue, mais pour réécrire l'histoire en rajoutant une oubliée de l'histoire. C'est vrai que pendant toute la programmation, dans ces 44 spectacles qu'on présente, il y a cette dimension de lien entre le passé, le patrimoine, le répertoire, l'histoire, et le présent et l'avenir, mais finalement, ça correspond à l'interprétation d'une partition, presque comme une constitution d'Avignon. Le texte constitutionnel d'Avignon, qui commence à être écrit par Jean Villard et après est écrit par des décennies de, pas seulement direction, mais équipe, artiste, public surtout, est un texte qui affirme le Festival d'Avignon, sinon par son visuel, parce que beaucoup de ces spectacles se passent dans des très beaux lieux patrimoniels, mais aussi par le sens profond au fond de ce qui est partagé avec le public. Ce texte constitutionnel, je disais, passe par ce lien entre patrimoine, mémoire, contemporanéité, les jours d'aujourd'hui et l'avenir. Et c'est déjà Villard qui l'affirme quand il présente dans la fameuse, la célèbre Semaine d'art de 47, en présentant, oui, Shakespeare, mais un Shakespeare quand même très contemporain pour son époque, mais aussi Clavel qui avait 25 ans à l'époque, qui était, on dirait aujourd'hui, un émergent. Alors cette idée que Avignon est de plus en plus devenu un lieu qui mélange un regard sur la mémoire avec un tremplin pour l'avenir, plus que mélange, qui affirme que ce regard vers le passé est le tremplin vers l'avenir, est quelque chose qu'on a voulu traduire avec ceux qui sont les propositions esthétiques de nos jours. Et je pense qu'aujourd'hui, le rapport avec répertoire, il se transforme, il se rend plus libre. Je pense que le travail qu'ils font, quelques artistes qui écrivent, qui s'inspirent du répertoire, et un lien aussi profond avec le répertoire que, par exemple, le montage, la mise en scène d'un texte intégral qui ne devra pas être absent du Festival d'Avignon, bien sûr, parce que c'est une dimension avec le rapport au théâtre de texte très important qu'il y a ce festival, mais qui quand même ne doit pas être réduite et surtout polarisée en disant que si on ne monte pas en texte intégral, on n'a pas l'amour du répertoire. Et là, je m'exprime pas seulement en tant que travailleur du Festival d'Avignon qui occupe le poste de directeur, mais je m'exprime aussi en tant qu'artiste et citoyen. Parfois, on découvre plus sur un auteur à travers une réécriture, alors que quand on parle de répertoire, on parle énormément de gens qui ont eux-mêmes réécrit. J'ai cité Shakespeare et Sophocle, c'était des gens qui réécrivaient. Ils n'ont pas inventé toutes les histoires qu'ils nous ont racontées.